suite de notre journée spéciale Asile et Immigration. L'heure de vérité, jour de présentation du projet de loi en Conseil des ministres, texte qui suscite questions et inquiétudes. On en parle tout de suite avec notre invité Didier Lesqui, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ancien préfet délégué pour l'égalité des chances auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il vient d'être nommé président du Conseil de direction de l'Institut européen en sciences des religions pour une durée de 4 ans. Proche de Jean-Pierre Chevènement, longtemps devenu sur le tard spécialiste des questions religieuses, comme il le dit lui-même, co-auteur avec Régis Debray de « La laïcité au quotidien » et seul de « Misère, avec ou sans S » de l'Islam de France, paru l'an dernier aux éditions du Cerf. Rebonjour à vous Didier Lesqui.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a beaucoup parlé de l'esprit de ce texte, entre logique répressive et logique d'accueil. On va peut-être avoir l'occasion, entre les lignes ou dans la lettre du texte, d'en reparler. Mais peut-être commençons par le contexte dans lequel ce projet de loi intervient. Y a-t-il pour vous urgence à ce qu'une nouvelle loi soit rédigée? Quelle nécessité?
Écoutez, c'est une question qui est plus de l'ordre du politique et que du fonctionnaire.
Mais c'est un sujet politique.
Il est vrai que chaque gouvernement a tendance à vouloir marquer sur un sujet qui suscite souvent les passions de son empreinte, la question de l'accueil, de l'immigration. Et je crois que au-delà de ça, ce qui me chagrine un peu, c'est que les aspects très techniques de ce texte polarisent le débat, alors qu'à mon sens, il faudrait beaucoup plus discuter plus largement des questions d'intégration, de prise en charge, de logement, d'accès à l'emploi, et d'une manière plus générale, des difficultés que nous avons déjà et qu'il faut absolument prendre en charge autour de la sociabilisation des personnes qui viennent de manière nombreuse. Je rappelle que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est en 2017 260 000 nouveaux titres qui ont été délivrés à des personnes qui ont un droit au séjour en France parce qu'elles ont des liens familiaux. Il y a une immigration de travail qui continue et il y a aussi ceux à qui on a donné une protection, les 43 000 titres de séjour au titre de la protection, et on a des difficultés très précises qui ne relèvent pas directement du texte de loi mais qui relèvent à mon avis d'une impulsion collective de l'ensemble de la société. Je parle par exemple du logement. L'État ne peut pas à lui seul régler la question du logement. En Allemagne, la question du logement des réfugiés ou des personnes qui arrivent, eh bien, c'est une prise en charge des collectivités locales de par la loi.
Donc il s'agit d'abord pour le gouvernement d'Édouard Philippe d'imposer sa marque sur ce sujet, comme les gouvernements qui l'ont précédé l'ont fait, peut-être en un. En point 2, vous l'évoquez, il y a des difficultés que ce texte entend résoudre ou pas, et dont on va pouvoir reparler, mais je voudrais juste qu'on campe un peu le décor, la situation, sur un point plus géopolitique. À quelle situation faut-il répondre aujourd'hui? Ça fait quand même 2-3 ans qu'on parle de la crise des migrants. La France est elle aussi, au sein de l'Europe, concernée par cette question. Elle va devoir se positionner. Comment prend-elle ses marques sur ce sujet?
Alors, la situation française, elle est spécifique par rapport à la situation globale en Europe, puisqu'on a une diminution de l'arrivée des personnes en Europe. On était à 2 millions en 2015, 500 000 en 2016, 300 000 en 2017. Donc, dans l'ensemble des pays d'Europe, à part la Grèce, je dirais, pour des raisons spécifiques qu'on connaît, et la France, on a une diminution du nombre de demandes d'asile. Mais la France connaît, elle, une augmentation de la demande d'asile. Et cette augmentation, elle est liée, en réalité, aux incohérences du système européen, ce qu'on appelle, par exemple, les accords de Dublin, qui font que la France est vécu comme un pays de rebond possible, parce que pour certaines nationalités, elle apparaît très directement, et en fait elle l'est en droit, comme beaucoup plus accueillante que d'autres pays. Je prends par exemple la situation des Afghans en Europe, qui ont été très largement déboutés en Allemagne, en Norvège, en Suède, et qui sont très largement accueillis par l'OFPRA en termes de protection, et qui aujourd'hui arrivent en France et qu'il faut prendre en charge. Mais on peut pas comprendre ce qui se passe à Calais si on n'a pas en tête que le taux de protection, comme on dit, OFPRA et en Allemagne, des Soudanais, aux alentours de 40 à 50%, alors qu'il est de 80% en Grande-Bretagne. Donc les Soudanais se cristallisent à Calais parce qu'ils veulent absolument passer en Grande-Bretagne, où ils ont plus de chances d'obtenir l'asile qu'ils ne l'ont en France ou en Allemagne. Et là, on a des systèmes incohérent d'un pays à l'autre, dans un même espace géographique qui est l'espace Schengen, hein, des taux de protection différents. Et ce qui est en train de se passer, c'est que la France est aujourd'hui impactée, disons, par les personnes qui sont, enfin impactées, c'est pas un bon terme, mais disons, arrivent en France aujourd'hui les personnes qui ont été déboutées en Allemagne. En particulier, l'Allemagne n'a pas accueilli 1 million d'autres personnes, comme on dit souvent. Il y a 1 million d'autres personnes qui sont rentrées, un peu plus, et 300 000 qui ont été déboutées. Et ces 300 000, elles tournent en Europe. Ce sont des jeunes hommes, la moyenne d'âge est entre 27 et 30 ans. À 90%, ce sont des jeunes hommes. Ils tombent pour essayer de trouver un point de chute. Et la France leur apparaît comme un point de chute beaucoup plus favorable que les pays d'Europe du Nord, qui, eux, connaissent un mouvement de fermeture juridique extrêmement important, qu'on ne voit pas d'ici, parce qu'on est polarisé justement par ce texte, mais on ne voit pas la tendance de fond qui est en train de se dessiner d'Allemagne à l'Europe du Nord, qui est un mouvement de fermeture juridique très fort, avec des droits différenciés, même quand vous obteniez le statut de résident, de réfugié, hein, par rapport à ceux qui sont résidents ou nationaux dans ces pays. La restriction du regroupement familial, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure. La mise en place dans certains pays de contrats de travail qui sont payés qui sont moins bien payés par rapport aux conventions collectives de ces pays que pour les salariés qui sont résidents ou nationaux. C'est ça qui est en train de se passer.
Et la tendance de fond sur un plan géopolitique, la tendance de fond sur les rapports Nord-Sud, on en parle peu aussi, et c'est un peu le pavé lancé dans la Méditerranée par le journaliste Stephen Smith, qui était invité des matins de France Culture aujourd'hui, spécialiste des questions de migration et de l'Afrique, auteur de La ruée vers l'Europe, un ouvrage qui vient de paraître chez Grasset. Pour lui, nous sommes tous en situation de migration.
Ce que je voudrais dire, le cataclysme annoncé était toujours la peur du nombre, le malthusianisme. Je ne suis pas du tout dans son propos, mais il y a quelque chose qui est arrivé. Je reprends le parallèle avec le Front National. Aujourd'hui, on parle des migrants et on fait comme s'il y avait encore des sédentaires. Il n'y a plus. Nous sommes tous des migrants. Même si je reste dans mon quartier à Paris, mon quartier change tellement que j'ai migré. C'est-à-dire on n'a pas vu que véritablement cette révolution se fait dans tous les quartiers, même dans les villes de province, et qu'aujourd'hui cette opposition du Front National qui dit « là, il y a les barbares qui vont venir nous envahir » et les autres qui sont des autochtones en quelque sorte, cette dichotomie a explosé. Nous sommes tous, que nous bougions ou non, dans la situation de migration parce qu'autour de nous, tout change.
Didier Lesky, on a toujours le sentiment, aujourd'hui encore, qu'on est dans une gestion au jour le jour de cette question, une gestion aussi par le chiffre, nombre de demandeurs d'asile, nombre de demandes acceptées, mais pas sur une réflexion de fond, sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et sur des scénarios d'avenir par rapport à cette question-là. Comment vous envisagez la situation ?
Écoutez, je crois que les débats des démographes autour de cette question ne sont pas aussi tranchés que ce que dit Stephen Smith. D'abord, l'essentiel des personnes continue à être sédentaires. Hein. Le nombre de migrants ou de réfugiés à travers le monde, c'est une infime proportion par rapport à l'ensemble de la population mondiale. La deuxième chose, c'est que on le voit bien, les premiers pays de refuge de ceux qui cherchent l'asile, ce sont les pays limitrophes des conflits, c'est pas l'Europe. Hein. Il faut, je crois, ne pas avoir un discours à ce point-là radical en disant, voilà, il va y avoir une vague qui va arriver parce que, d'abord, c'est pas avéré et c'est plus inquiétant qu'autre chose pour une partie de ceux qui nous écoutent. Ensuite, la gestion le jour, c'est pas exactement ça. On a doublé le parc de demandeurs d'asile en 5 ans. On a aujourd'hui 84 000 places d'accueil, hein, de demandeurs d'asile. Mais ce qui est vrai, c'est que la situation administrative française fait que il y a une sorte de déresponsabilisation de ce qui, à mon avis, le premier lieu de l'accueil, que sont les collectivités locales, les municipalités. Hein, l'État n'a pas ou peu de foncier pour des raisons, enfin de bâtiments pour des raisons qu'on connaît, c'est-à-dire par exemple le fait que pendant une dizaine d'années, les politiques qui ont été menées ont amené l'État à vendre ses bâtiments, hein, à vendre ses casernes par exemple, à vendre tout ce qui était disponible. Et donc il n'y a que les collectivités locales qui peuvent aider à cela. Et moi, je constate, par exemple, le décalage qu'il peut y avoir entre certains discours et la réalité. Stephen Smith parlait de Paris. Paris, en 30 ans, en 40 ans, enfin en 30 ans, hein, la population immigrée par rapport à l'ensemble de la population parisienne est passée de 30 à 20%. Hein. La gentrification, par exemple, a fait diminuer le nombre d'immigrés dans des arrondissements comme le 9e, le 10e, le 11e, le 18e, le 19e. C'est-à-dire les arrondissements qui étaient les portes d'entrée traditionnelles de l'immigration, eh bien, voient le nombre d'immigrés diminuer. Et dans le même temps, et là on a des problèmes qu'il faut vraiment prendre en charge, eh bien, on a une augmentation très forte de la population immigrée dans un département très pauvre, qui est celui de la Seine-Saint-Denis. Dans la même période, on a près de 300 000 immigrés en plus en Seine-Saint-Denis qui se concentrent sur certaines zones. La Courneuve ou Aubervilliers, c'est 43% de la population qui est immigrée. Et là, on a une discussion à avoir sur comment on fait, comment on répartit ceux qu'on accueille. Hein, est-ce qu'on met en place des mécanismes qui sont plus directifs que ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'a fait l'Allemagne et la Suède. L'Allemagne et la Suède arrivent à gérer justement en termes de prévision, comme vous dites, les personnes qui arrivent, parce qu'il y a ces mécanismes de répartition avec une responsabilisation très forte de l'échelon communal, qui est historiquement le premier échelon de l'intégration.
Une question d'Antoine Mercier.
Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Oui.
Comment se passe l'intégration aujourd'hui, si on prend un peu de recul sur les
alors l'intégration, l'office,
parce que c'est ça le
bien sûr
la clé de la
c'est ça la clé. L'office, c'est le premier pas de l'intégration. L'intégration, dans le discours politique et peut-être même journalistique, on a l'impression que ça doit se faire en 30 secondes. En réalité, c'est un processus très long. Hein, et l'OFI n'est que la porte d'entrée d'un dispositif où on va donner des cours de français 200 heures, ce qui est très peu, trop peu, comme le dit le rapport Tachet. La France a toujours, d'une certaine manière, pas fait d'efforts suffisants sur la question de la langue parce que c'était un peu secondaire par rapport à la nationalité. On n'est pas français parce qu'on parle français, hein, alors qu'on est allemand parce qu'on parle allemand, hein, pour aller vite. Et donc, on a sous-estimé cette question. Et surtout, on l'a sous-estimé parce que l'immigration traditionnelle, elle reste toujours la dominante, c'est une immigration qui vient de pays francophones, y compris la demande d'asile. Hein, la demande d'asile ne vient pas prioritairement en France de pays non francophones. Hein, c'est l'Afrique de l'Ouest ou les pays du Maghreb. Donc on a cette immigration qui avait un lien avec la francophonie, ce lien a diminué. Et les 200 heures sont apparues comme d'autant plus insuffisantes que sont arrivées des personnes beaucoup plus loin de nous. Mais sur la question de l'intégration, donc l'OFI fait le premier pas. Et puis après, on dit, et c'était le sens de la loi de 2016, on dit il faut orienter vers les personnes vers ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire Pôle emploi. Voilà. Et ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas pour deux raisons. En termes d'intégration, ça ne marche pas parce que on a perdu beaucoup d'emplois peu qualifiés. Or, le travail était le processus traditionnel d'intégration en France. Et c'était un processus pas simplement parce que ça offrait un espace de socialisation des personnes dans un environnement où elles allaient rencontrer d'autres personnes, hein, des environnements de travail, mais c'était aussi un processus d'intégration par le fait que elles pouvaient être prises en charge par des organisations, par des organisations syndicales, par une sociabilité qui les intégrait à de la citoyenneté, hein, pour dire les choses rapidement, c'est-à-dire pas la citoyenneté au sens plein du mot sur le plan du droit, mais à un mouvement d'intégration dans la société. On a vu ça avec les vagues migratoires précédentes.
Et là, ça ne marche plus.
Et là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que le travail lui-même a diminué dans un département comme la Seine-Saint-Denis. On n'a plus les grandes entreprises de l'automobile, par exemple. Hein, la fermeture de PSA à Aulnay est exemplaire de ce point de vue-là. Et puis, on n'a plus ces organisations qui pouvaient prendre en charge les questions posées par les personnes arrivant en termes de droits, en termes de dynamique et de sociabilité. Et je constate, et c'est là la limite aujourd'hui de l'OFI, c'est l'absence de partenaires sur ces questions. Par exemple, j'entends bien les critiques sur le projet de loi, mais moi, je trouve que ce qui manque dans le débat global sur la prévision, comme vous dites, de qui on prend en charge, eh bien, c'est un dialogue entre partenaires sociaux. Que pensent les organisations syndicales de la place qui doit être faite à ceux à qui on a accorde une protection dans le processus de travail. Est-ce qu'on leur donne une place singulière? Est-ce qu'on ouvre ou pas ces emplois? Comment on gère les effets de concurrence entre les publics? Ça, ça serait une question importante. Comment on fait du point de vue du logement? On est en pénurie de logement social dans un certain nombre de quartiers. Et en même temps, on a l'obligation morale d'orienter au plus vite ceux à qui on accorde une protection, les réfugiés. Aujourd'hui, dans le dispositif national d'accueil géré par l'OFI, il y a 15 000 réfugiés statutaires qui n'arrivent pas à trouver une place dans le logement. Et pourquoi elles n'arrivent pas à trouver une place au logement? Parce que même les municipalités les plus engagées, hein, comme on le dit souvent, eh bien, qu'est-ce qu'elles répondent aux agents de l'OFI? On ne peut pas les mettre en priorité par rapport à des personnes qui attendent depuis des années des logements. Moi, je crois qu'il faut à un moment donné, les mettre en priorité. Pourquoi? Parce que si on arrive à faire la démonstration qu'on peut intégrer des réfugiés, hein, on peut relancer un mécanisme global, positif, dans l'ensemble de la chaîne d'intégration qui ne concerne pas que les réfugiés, mais qui concerne aussi ceux qui viennent de manière légale en France.
Et donc, ces questions que vous soulevez, est-ce que vous avez trouvé des réponses à ces questions dans le fameux rapport d'Aurélien Taschet, député La République En Marche du Val-d'Oise, qui, rappelons-le, hein, se concentre sur la question de l'intégration des réfugiés qui auraient obtenu un titre de séjour, soit au titre de l'asile, aussi parfois du regroupement familial, c'est-à-dire ce contrat d'intégration républicaine qui renforce un peu à la danoise l'apprentissage de la langue, l'insertion professionnelle, l'accès au logement, tout ce que vous venez d'évoquer, et puis un enseignement civique, puisque vous disiez il faut encore savoir ce qu'est être français aujourd'hui et peut-être en comprendre les valeurs telles qu'elles peuvent être enseignées. Est-ce que vous avez trouvé des réponses à ces questions pratiques dans ce rapport?
Alors moi, j'ai pas utilisé la question de savoir comment être français. Je pense que on ne peut socialiser les personnes que si on arrive à les prendre en charge dans des mouvements collectifs, hein, qui leur donnent le sentiment de pouvoir participer à la vie, et en particulier la vie dans l'entreprise, dans la vie dans la cité. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Alors Aurélien Taschet, il fait des propositions en particulier axées sur la question de la langue. Et je crois que c'est important, effectivement, que on fasse un effort là-dessus, parce que on ne peut participer pleinement à la vie collective que si on maîtrise au moins les moyens de l'expression.
Et que si on a un logement aussi et que si on a un travail. Donc tout
oui,
ça,
c'est pour ça que c'est complexe.
C'est difficile à hiérarchiser quand même.
C'est complexe et ce n'est pas de l'ordre de la loi. Voilà. Et c'est de l'ordre de la volonté collective de vouloir le faire. La question du logement ne peut pas se résoudre simplement par la loi comme on le fait aujourd'hui en Allemagne, puisque on oblige les collectivités à trouver absolument un hébergement pour les personnes qui sont orientées dans une région. Hein. La contrepartie pour les personnes, je le rappelle, c'est que du coup, dès lors qu'elles vivent de prestations sociales, elles ne peuvent pas quitter le logement qu'on leur a attribué ou même la zone géographique dans laquelle on les a mises. Mais oui, c'est pas de l'ordre de la loi, c'est de l'ordre d'une mobilisation d'ensemble de la société. Et ce que je trouve un peu difficile, si vous voulez, dans les discours, dans les critiques, je veux pas discuter du fond du texte, c'est pas mon sujet en tant que fonctionnaire, c'est que ce qui nous manque, c'est de sortir de cette logique qui est de dire l'État ne fait pas assez, hein, et qui est une forme de déresponsabilisation d'un certain nombre d'acteurs sociaux, et je le vois dans les quartiers, en particulier dans les municipalités, où quand on demande véritablement un effort en matière de réservation de logement, eh bien on n'en a pas suffisamment.
Mais est-ce que la situation n'est pas accrue, plus difficile, rendue plus difficile par le fait que globalement, la pauvreté, l'accès précisément au logement, la solidarité, la citoyenneté, etc., tout ce qu'on appelle globalement le lien social est aussi en train de disparaître, pas seulement alors, pour les migrants, et que donc là, effectivement,
bien,
on a bien
sûr,
devant un problème nouveau.
Bien sûr, vous avez raison. En même temps, pour reprendre une expression qui est maintenant à la mode, hein, moi ce que je constate c'est que dans les petites villes, dans les villes moyennes, partout où on a orienté des réfugiés, on a réussi à obtenir des choses positives, un processus de prise en charge, d'intégration. La difficulté qu'on a, c'est le fait que 40% de la demande d'asile en France est concentrée sur l'Île-de-France. Or, l'Île-de-France est une situation extrêmement...
Et est-ce que vous voudriez qu'il y ait une loi, qui, comme en Allemagne, qui donne une direction, un
alors,
lieu.
Il y a, que ça serait souhaitable. Il y a déjà dans le texte qui est présenté un mécanisme d'orientation vers des régions. Il est peu commenté, et je trouve ça étrange, mais il y a quelque chose qui apparaît. Mais je crois que la question de la mobilisation des élus locaux, des collectivités locales, est importante. Par exemple, on a beaucoup de jeunes, 90% des demandes de réfugiés concernent des jeunes, en particulier de subsahariens ou soudanais, qui viennent de pays profondément déstructurés, où il n'y a pas eu de, où il n'y a plus de système de formation qui ait pu les prendre en charge, et donc ils sont, on a beaucoup d'illettrisme. Enfin bon, la formation professionnelle, c'est une compétence des régions, ce n'est plus une compétence de l'État. Comment on articule formation professionnelle et formation en termes besoin en termes de main d'œuvre et développement économique. Voilà. Et ça, c'est un sujet. Je veux dire, à quoi on forme, pour quels besoins, du point de vue de l'industrie, du point de vue des besoins sociaux à pourvoir, justement, en termes de logement en particulier. Ça, c'est une discussion qu'on n'a pas, ou peu. Hein, et on est polarisé sur le délai de rétention.
Vous dites sur les détails techniques, mais malgré tout, ces délais, bon, j'entends bien ce que vous dites. Vous avez dit tout à l'heure, c'est technique. Mais c'est vrai que si vous réduisez de moitié un délai pour que des gens, enfin, on a entendu les témoignages, qui doivent envoyer des lettres, qui ne savent pas comment se retrouver, vous risquez quand même, malgré tout, par ce biais technique, d'assécher un petit peu le problème.
J'entends bien. Là où je suis un peu, dubitatif sur tout ce que j'entends, c'est qu'en réalité, le texte du gouvernement, eh bien, il oriente le droit français vers les normes européennes. Hein, le délai de recours en Allemagne, c'est 14 jours. Hein, l'Allemagne n'est pas vécue comme un pays qui refuse, par les mêmes commentateurs, hein, qui serait un pays qui refuse d'accueillir. Je rappelle que la rétention administrative en Allemagne, c'est 18 mois. Hein, on n'est pas à 90 jours, on peut atteindre 18 mois. La moyenne en Europe de la rétention, c'est 180 jours. Hein, donc on ne peut pas mesurer la qualité de l'accueil d'un pays par rapport à cette question de la rétention. Et en plus, enfin, il faut peut-être revenir sur historiquement comment on a mis en place les centres de rétention. C'est Pierre Joxe qui a mis en place les centres de rétention. Il faut s'en souvenir pour arrêter la mise en garde à vue des personnes qui étaient sans titre de séjour en France. Voilà. Et des centres qui étaient aménagés avec la présence d'associations, la CIMAT par exemple, des agents de l'OFI qui y sont, des accès au téléphone, à un interprète, etc. Ce qui est vrai, c'est que ces centres de rétention, ils suivent la pente tragique de l'ensemble de l'immobilier de la police nationale. Hein, je veux dire, ils sont peut-être dans le même état que les commissariats de police, c'est-à-dire dans pas un très bon état. Voilà. Et donc les conditions, tant pour ceux qui sont là, de la police aux frontières, que des associations, que pour les retenus, ne sont pas des conditions bonnes, hein, du point de vue de l'aménagement. Mais c'est ça, les centres de rétention. C'est pas une invention sortie de personnes qui ne sont pas réputées, enfin, je crois pour Pierre Joxe, comme étant hostiles aux droits des personnes.
Alors comment ou à quoi mesurer la qualité d'accueil d'un pays, peut-être par le regard qu'on pose sur cette question de l'immigration et de l'asile? Quel est le regard aujourd'hui porté en France? Beaucoup reprochent justement au texte, au projet de loi actuellement porté par le gouvernement Philippe, de continuer à considérer la migration ou l'émigration comme un problème plutôt qu'éventuellement comme une chance ou tout simplement comme une question qui se poserait à notre société aujourd'hui en 2018. On peut évoquer aussi ensemble avec vous, Didier Lesky, le malaise dans les organismes en charge de ces questions d'asile. C'est le cas à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, où un mouvement de grève est en cours. C'est peut-être aussi le cas du côté de chez vous. À l'OFI, vous nous le direz, une administration sans affect, c'est ce qu'évoquait en tout cas le cinéaste Mahamat Saleh Haroun, qui était notre invité à l'occasion de la sortie tout récemment de son film En France, une saison en France. Il était il y a peu donc l'invité de la Grande Table.
Chacun est dans sa solitude et dans un questionnement. Est-ce que mon histoire va paraître crédible? On en arrive à ça en fait. Est-ce qu'elle est crédible ou pas? Et on est poussé par moments à rajouter des choses en se disant que ça sera peut-être beaucoup plus crédible que cela. Je voulais en effet montrer cela, et c'est l'humanité de ces gens contre la... C'est pas seulement l'anonymat, mais c'est ce côté inhumain de l'administration, en réalité, qui traite des dossiers qui n'a pas d'affect, c'est le propre de toute administration, qu'elle soit judiciaire, enfin la sécurité sociale. À un moment donné, on ne parle pas à des êtres humains, on traite des dossiers. Et moi, ça ne m'intéressait pas, si vous voulez, de montrer ce visage-là pour dire qu'il y a des mauvais et qu'il y a des bons et des méchants. Enfin, ça ne m'intéresse pas, ce cinéma qui consiste à dire qu'il y a des bons qu'on doit défendre et des mauvais. Je pense que ça, c'est un peu mon côté jésuite, que tout homme est perfectible. Et je ne voulais pas montrer non plus des fonctionnaires derrière des guichets pour en faire des méchants, parce qu'ils ne sont pas responsables de la machine administrative.
Qui est responsable alors? Comment aborder peut-être autrement aussi la gestion de ces demandes, le traitement des demandeurs d'asile aujourd'hui en France?
D'abord, je crois que chaque fonctionnaire est responsable de la machine. Et il doit le faire en fonction d'une éthique. Et je crois que les agents de l'OFPRA qui sont en grève aujourd'hui ne montrent pas une administration sans affect. C'est même le contraire. Et pareil pour les rapporteurs des dossiers à la CNDA. S'ils se mobilisent, c'est justement parce que ils ont un affect et qu'ils sont soucieux du droit des gens et qu'ils ont du mal à articuler leur propre travail avec l'interprétation qu'ils font du texte. Donc on a bien une administration qui a des affects et qui arrive à le faire. La deuxième chose, c'est que on se polarise sur la demande d'asile, mais je rappelle que la première migration en France, c'est la migration légale, hein, et que c'est celle-là aussi qu'on doit accueillir. C'est pour ça que le rapport Taché parle de l'intégration au sens général et pas simplement de la demande d'asile. Il y a près de 3 fois plus de personnes qui viennent légalement en France parce qu'elles ont un droit au séjour ici, parce qu'elles ont des liens familiaux, parce qu'elles sont recrutées par des entreprises encore, hein, il y a encore une immigration économique, qu'il y a de personnes qui viennent ou qui ont un titre de séjour au titre de l'asile. Hein, 260 000 personnes, 43 000 personnes. Ça, c'est ça qui est important. L'autre chose, c'est que on donne une image du pays qui, à mon avis, n'est pas réelle. Je pense que le pays, globalement, se comporte bien par rapport à l'accueil.
Didier Lesky, vous dites on donne une image du pays.
La manière dont on en débat et la manière dont on débat de la question de l'accueil et de l'immigration donne le sentiment que ce pays n'accueille pas. Je crois que globalement, ce pays, l'ensemble de sa population, a un comportement plutôt correct vis-à-vis des migrations et ne le vit pas, comme on dit, comme un problème. Hein. Et j'en ai pour preuve le fait que, au moment de l'évacuation de la lande de Calais, un certain nombre d'hommes politiques nous ont expliqué qu'on allait mettre la France quasiment à feu et à sang en multipliant les points de fixation. Ça est négatif, ça a été exactement l'inverse. Hein. Et d'un point de vue très matériel, et on n'a pas la mémoire de ça, on a plus de 300 lieux d'accueil de demandeurs d'asile en France. Hein. Il n'y en a qu'un, pendant toute cette période, qui a fait l'objet d'une attaque violente. Et cette attaque, elle a eu lieu dans un bâtiment qui était vide. Je rappelle que dans les années 70, on avait des foyers de travailleurs migrants qui étaient attaqués, brûlés, et on a eu des dizaines de morts. Hein. Et on est donc dans une situation globale, hein, où on ne peut pas dire qu'il y ait des réactions à ce point-là négatives de la population en matière d'accueil des migrants.
Didier Lesky, depuis le mois de janvier, vous avez une nouvelle casquette. Vous présidez le conseil de direction de l'Institut européen en sciences des religions.
Oui.
Alors, est-ce que la religion a à voir avec ces questions de migration aussi? Est-ce que vous faites un lien?
Alors, oui, enfin, je fais un lien parce que ça rejoint les problèmes d'intégration, si vous voulez, et de prise en charge des personnes pour les amener à participer pleinement à notre vie collective et d'en partager, je dirais, les valeurs et les enjeux.
Vous traciez un portrait, disons, plutôt favorable globalement. Est-ce que sur ce point-là, il n'y a pas tout de même un point de crispation?
Oui, bien sûr, il y a un point de crispation. Non, mais mon hésitation, c'est le fait que c'est pas un problème spécifique à ceux qui demandent l'asile aujourd'hui ou qui sont réfugiés. La question de l'articulation entre le sentiment religieux et la manière dont on le met en œuvre dans la vie collective. Je dirais quand même qu'une des difficultés de l'intégration qu'on a, et c'est vrai pour les demandeurs d'asile, en particulier quand ils viennent de pays profondément déstructurés, c'est le fait que ils viennent de pays où les mouvements laïcs ont été complètement éradiqués. Cette éradication a laissé un espace extrêmement important à ce qu'on appelle rapidement l'islamisme politique. Donc les plages de dialogue, les plages culturelles communes se sont d'une certaine manière atténuées beaucoup plus que par le passé, si vous voulez. On oublie quand même que l'islamisme politique, il a bénéficié de l'éradication en Indonésie du Parti communiste indonésien, de la liquidation d'une partie de la gauche au Liban, de la liquidation des marxistes au Soudan. On a même oublié que même un pays comme l'Afghanistan, il y avait un courant communiste qui a dirigé le pays pendant quelques temps avant qu'il se suicide entre deux fractions. Et ça pèse. Dans la manière dont les personnes se comportent ici. Et je le vois bien, on parlait des difficultés des agents de l'OFPRA, mais une des difficultés, par exemple, des agents de l'OFI, en particulier parce que à plus de 70%, ce sont des femmes, ce sont les interactions dans la prise en charge d'un certain nombre de migrants qui ont un comportement immédiat par rapport aux femmes qui pose un problème au personnel de l'OFI et j'essaye de leur faire comprendre que ça va être un processus long, qu'il ne faut pas avoir une réaction négative, mais c'est un des sujets de l'intégration qui est de nouveau devant nous de manière extrêmement prégnante parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'a plus les organisations qui peuvent prendre en charge ces questions et qui peuvent amener à une forme d'acculturation positive des personnes pour leur faire partager notre sentiment commun d'humanité, de fraternité.
Voilà un processus à aborder et à envisager sous tous ses angles sur un temps long. Didier Lesky, merci beaucoup venu autour de cette grande table dans le cadre de cette journée spéciale Asile et Immigration, journée qui se poursuit jusqu'à ce soir sur l'antenne de France Culture. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la grande table, Claire Maillot et Clémence Marie à la programmation, Chloé Leblanc et Iso Tsikar à la préparation, Maxime Morin et Bertie Bourdon qui nous ont bien aidés une fois encore, à la réalisation LISCOM avec Alex Dang. Vous pouvez retrouver toutes les informations en lien avec l'émission sur la page de la Grande Table sur franceculture.fr. Vous pouvez également nous écrire et réécouter l'émission. Très bel après-midi à tous et je vous dis à demain.